La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est notre débat du jour, comme chaque vendredi. La libre antenne, c'est vous qui faites le menu, qui abordez les sujets de votre choix. Vous pouvez poursuivre ou rebondir sur des discussions de la semaine écoulée, lancer de nouveaux débats, nous alerter sur certains faits d'actualité. Il est encore temps, nous attendons vos réactions, vos commentaires sur la page Facebook de l'émission notamment, ou encore vos messages WhatsApp ou téléphoniques. On commence à N'Djamena avec Gédéon. Bonjour.
Bonjour François Mazet, bonjour également à David Singel qui nous aide à écouter la Radio France Internationale sur le sport et Madiafrana Kol, correspondant de N'Djamena.
Merci Gédéon. Vous souhaitez revenir sur notre débat de mardi matin sur la proclamation de l'état d'urgence dans trois régions du Tchad, la région du Tébesti dans le nord, mais surtout le Sila et le Wadaï dans l'est, suite à ces violences récurrentes entre cultivateurs et éleveurs transhumants, avec en toile de fond l'appauvrissement des terres, la sécheresse, l'élargissement des troupeaux ou encore l'augmentation des populations. Surarmement également de ces populations locales, donc un sacré cocktail d'instabilité. Gédéon, vous avez bien conscience que c'est un problème profond, mais en attendant un éventuel travail sur les racines de ce conflit, est-ce que vous pensez que l'état d'urgence est une décision à même de ramener le calme dans ces régions?
Non, je ne pense pas que l'état d'urgence est une décision à même de pouvoir ramener le calme dans la région, mais c'est une décision quand même salutaire à court terme, parce que là, pour éviter des bains de sang, eh bien, on a établi l'état d'urgence pour pouvoir calmer la situation. Mais il faudrait, n'est-ce pas, des solutions durables, c'est-à-dire il faut rassembler tous les acteurs qui sont dans ce problème-là, les agriculteurs, les éleveurs, les hommes d'affaires, les députés, les militaires, tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des conflits agriculteurs-éleveurs, mais il y a d'autres acteurs qui soutiennent, n'est-ce pas, ce conflit et qui l'enflamment de plus en plus.
Des acteurs institutionnels, notamment, comme ceux qui ont été pointés du doigt par le président Idriss Déby?
Ah, bien sûr, des acteurs institutionnels. Aujourd'hui, au Tchad, vous avez des généraux, des gouverneurs qui ont des brebis, des bétails. Et vous savez que ce bétail font également de l'argent. Ces éleveurs, ils ne peuvent pas s'armer, ils ne peuvent pas avoir des armes. Ils ont des armes, c'est-à-dire qu'ils les ont eues quelque part. Et vous savez que les frontières tchadiennes sont poreuses à l'est et à l'extrême nord, avec le Soudan et la Libye. Et les armes sont en train de circuler n'importe comment. Par conséquent, n'importe quel éleveur pourra avoir n'importe quelle arme. Et ensuite, ces gens-là qui arment les éleveurs pour leur protection, parce que l'éleveur également, quelque part, il n'est pas en protection parfois. Donc, par conséquent, il y a des razzias, des gens qui viennent, n'est-ce pas, ramasser leur bétail par-ci, par-là. Ça, c'est le cas du Nord. Et ils se sont armés. Et donc, par conséquent, pendant la transhumance, lorsqu'ils descendent également au Sud, et au Sud aussi, il y a des cas pareils.
Donc, si je vous suis bien, la fermeture des frontières, c'est une bonne chose?
La fermeture de frontières à court terme est une bonne chose, mais seulement il faut accompagner cela. Parce que vous savez que ces armes entrent du Soudan et également de la Libye. Par conséquent, en revanche, il faut aussi contrôler, parce que ces agriculteurs ramènent leurs produits champêtres à moto. Ils viennent à pied, ils viennent à bicyclette, et c'est pas tout le monde qui a une voiture. Eh bien, il faut un moyen de déplacement. Alors, s'ils ne se déplacent pas, n'est-ce pas, pour ramasser leurs produits agricoles, là également, il y a problème. Par conséquent, il faut accompagner cela par des stratégies ciblées qui pourra, n'est-ce pas, non seulement amener la sécurité, mais également aider la population et non l'appauvrir davantage.
Merci Gédéon d'avoir été en ligne de N'Djamena. Ce débat, on le poursuit à Montréal, au Canada. Bonjour Mahamat Lamine.
Bonjour François Mazé.
Vous êtes fonctionnaire au ministère des Finances tchadien, vous êtes actuellement en formation au Canada et vous faites confiance au chef de l'État pour régler le sujet.
Exactement, je ne suis pas d'accord avec M. Gédéon, ce qu'il venait de dire, ses interventions. Il n'y a pas un général qui a des armes, qui aide les éleveurs, les agriculteurs, pas du tout. Il y avait une commission d'inspection de ramassage des armes qui sont dans le main des populations. Une commission a été mise il y a de cela 2 ans. Et cette commission est en train de travailler donc pour ramasser toutes les armes. Et ces conflits...
Mahamat Lamine, cette commission, elle fonctionne régulièrement. L'armée exhibe des stocks d'armes récupérés auprès des habitants de ces régions. Mais pourtant, les violences, elles sont toujours là. On l'a encore vu en ce mois d'août. Donc il y a toujours des armes qui circulent.
Les violences, je ne conteste pas, les violences sont toujours là, n'oubliez pas quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, le Tchad, nous, on est en train de sécuriser l'Afrique, on est en train de sécuriser le pays voisin. Sauf nous, on était au milieu. Le cas du Mali, le Mali n'est plus là aujourd'hui avec les djihadistes, la Libye n'est plus là, le Centrafrique avec les Séléka, les pas mal de groupes armés qui sont là. Donc, le conflit à l'intérieur du Tchad, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État, la dernière visite du chef de l'État à l'est du pays, le couvre-feu, ne veut pas dire qu'on est incapable, nous n'arrivons pas, Déby n'arrive pas à maîtriser ces régions.
Le Tchad est effectivement, Mahamat Lamine paye les pots cassés hein, des conflits chez ses voisins. Pourtant, ils ont aussi des racines profondes, ces conflits.
Oui, je conteste pas ce que vous dites, je conteste pas. Aujourd'hui, vous voyez un peu l'Est du Tchad. Je parle bien, je connais l'actuel gouverneur, j'ai eu à travailler avec lui, d'Abéché, M. Ramadan Erdogan. C'est un gars qui est très honnête, il fait normalement son travail. Donc j'ai entièrement confiance à ce monsieur et dans ses fonctions respectives, voilà. Merci. Donc je ne suis pas d'accord avec M. Gédéon qui venait de dire non, les généraux, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, et regardez l'exemple du Mali aujourd'hui, on a des hommes braves. Il y a une commission qui a été mise aux frontières entre le Tchad et le Soudan, commission mixte. C'est commandement, les commissions actuellement, c'est le commandement est à main du Tchad. Il y avait le général Igno qui a annoncé, qui gère ces commissions. Au Mali, on a M. Bukimo qui est là, il a reçu le chevalier d'ordre de mérite. Donc écoutez, le Tchad est normalement, il faut que la population respecte l'acte de chef de l'État et l'acte du gouvernement. Voilà,
Mahamat Lamine, vous faites confiance aux militaires tchadiens. On va aller directement à Abéché demander à Ibrahim ce qu'il en pense dans le Wadaï. Ibrahim, bonjour.
Bonjour François et bonjour à tous.
Et comme vient de le dire Mahamat Lamine, est-ce que vous faites confiance aux militaires tchadiens pour gérer la situation dans vos régions?
Bon, tout d'abord, les mesures que le gouvernement tchadien a prises, elles ne sont pas des solutions salvatrices, que ce soit la présence des militaires ou bien l'état d'urgence ou la fermeture des frontières. Donc, ces mesures, au lieu qu'elles réduisent les mal de la population, elles ajouteront d'autres souffrances pour la population. Pour mieux résoudre ces conflits, il suffit de passer tout d'abord par la sensibilisation, oui.
Oui, la sensibilisation, Ibrahim, mais alors, juste un point, vous parlez de souffrances supplémentaires, vous pensez à la fermeture des frontières qui vont bloquer le commerce, vous pensez aux motos qui sont ramassées par les militaires alors que c'est un moyen de locomotion absolument essentiel?
Oui, effectivement, il y aura de fortes répercussions sur l'économie des régions concernées.
Donc vous prêchez la sensibilisation pour sortir de cet état de violence qui perdure?
Oui, pour moi, c'est-à-dire que la sensibilisation et le dialogue est la meilleure des choses. Puisque ce sont des populations qui ne connaissent rien dans les civismes, il faut qu'on les éduque dans les civismes, à les enseigner l'amour de la patrie et l'amour du prochain. Puisqu'on ne peut
alors,
pas résoudre...
Ibrahim, excusez-moi, mais le civisme, c'est effectivement important, mais quand vous vous mettez à la place des agriculteurs qui voient leur champ détruit par le bétail, ou quand vous vous mettez à la place des éleveurs qui ont besoin de faire paître leurs troupeaux, le civisme et l'amour de la patrie, ça passe un petit peu après la préoccupation immédiate, non?
Oui, effectivement. Donc, on ne peut pas faire recours à la violence pour résoudre une violence. Donc, c'est que j'aimerais que le gouvernement fasse désarmer tous les civils et d'arrêter tous les trafics d'armes dans les régions en conflit. Et de mettre des postes de sécurité dans chaque village et périphérique. Et même d'accompagner les nomades dans leur transhumance avec la garde nomade nationale tchadienne dans tous leurs déplacements.
D'accord, merci Ibrahim d'avoir proposé ces solutions. Peut-être seront-elles reprises à plus long terme par les autorités du Tchad. On passe au Soudan avec encore des réactions à notre débat d'hier sur la mise en place des autorités transitoires à Khartoum. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu hier plusieurs auditeurs féliciter les Soudanais pour leur transition, saluer cet équilibre entre militaires et civils. Mais vous, vous n'êtes pas du tout de cet avis.
Non, je ne suis pas du tout de cet avis. Et je m'explique parce que, vous voyez, le pouvoir en Afrique, c'est quelque chose. Une fois que les militaires... Prendront-vous au pouvoir, je ne suis pas sûr s'ils vont vouloir accepter de quitter le pouvoir aussi facilement. Parce que quand je regarde la manière dont le président qui vient de partir est venu au pouvoir, et ce sont ses généraux qui prennent en compte sa place, voyez-vous, le numéro un de cette transition, il a été accusé par une chercheuse des actions au Darfour. Là, le numéro 2, lui, tout récemment, il a délibérément tiré la balle réelle sur ses manifestants. Et du coup, c'est lui encore qui doit prendre.
Alors, Maxime, la ligne n'est pas très bonne, on vous entend pas très bien, mais je vais synthétiser votre point de vue. Hein. Vous avez peur que les militaires confisquent cette révolution et cette période transitoire qui s'est ouverte pour une période de 3 ans. Et c'est un avis qui est partagé, on l'a entendu hier sur l'antenne, on l'a lu aussi dans les divers commentaires sur Facebook. Mais c'est un avis que vous ne partagez pas, Florent. Vous êtes à Lomé, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, il faut donner le bénéfice du doute aux militaires tchadiens?
Oui, il faut donner le bénéfice du doute aux militaires tchadiens, bon, à condition que la fin soit la meilleure possible, puisque les situations se sont présentées, des situations similaires se sont présentées en Afrique, et on a vu ce que ça a donné. On a accordé la confiance aux militaires, et en fin de compte, quand même, militaires sont montés au pouvoir et ont fait tout autre chose que ce pourquoi on les avait accorder la confiance.
Mmh. C'est un mal nécessaire, selon vous?
Oui, c'est un mal nécessaire, puisque aujourd'hui, ces mêmes militaires ont fait partie du régime Béchir, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Bon, si on voulait les écarter coûte que coûte, la situation serait très catastrophique au Soudan. Donc, pour éviter ça, on doit les intégrer.
Oui, parce que ce sont eux qui ont la main sur l'appareil de défense, mais aussi les relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires étrangers. Donc ils sont incontournables.
Oui, ils sont incontournables.
Merci Florent d'avoir été en ligne de Lomé, direction Ouagadougou. Bonjour Mahamadou.
Bonjour François, bonjour RFI.
Vous souhaitez revenir sur l'actualité de votre pays, le Burkina, ce deuil national qui a débuté aujourd'hui pour 3 jours. On en parlait dans la première partie de l'émission après cette attaque djihadiste de lundi qui a lourdement frappé l'armée, plus de 24 morts dans le nord du pays. Vous avez le sentiment que le Burkina Faso n'est pas aidé dans sa lutte contre les djihadistes?
Absolument, mais avant tout, je voudrais m'incliner sur devant la mémoire de tous nos disparus d'ici et d'ailleurs. En effet, pour le Burkina, on notera que sur cet énième épisode macabre-là, je pense que le Burkina n'est pas aidé. Que ce soit par la force Barkhane, que ce soit par le G5 Sahel, je pense qu'il y a un grave problème de renseignement dont souffle le Burkina. Le Burkina n'a pas de grands moyens, il fait avec ce qu'il peut, mais à mon sens, toutes les organisations qui ont été mises en place pour la lutte contre le terrorisme, jusque-là, ça ne nous a pas servi à grand-chose, à mon sens.
Ouais, le G5 Sahel, pour l'instant, selon vous, il reste largement virtuel.
Oui, il est virtuel, quoique on nous a dit tantôt que les moyens qui avaient été sollicités par les cinq pays avaient été mobilisés en grande partie par les bailleurs de fonds. Mais jusque-là, sur le terrain, nous n'avons pas une action visible comme ça à mettre à l'actif du G5 Sahel ou dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons été frappés la semaine passée avec le lot de morts que vous connaissez. Le Mali a été frappé après nous, mais c'est devenu une récurrente banalité. Et on ne peut pas accepter cela. Et il faut qu'à un certain moment, bon, quelqu'un puisse taper sur la table pour dire que trop, c'est trop. Le Burkina à lui seul ne peut pas. Le Mali à lui seul ne peut pas. A fortiori, le Niger. Donc, il faut que la communauté internationale mette à nos moyens, à notre disposition des moyens efficaces du renseignement. Parce que ceux qui ont attaqué le contingent burkinabé la dernière fois, ce n'est pas quelques hommes, c'est une grande troupe. Mmh. Pour pouvoir venir à bout de 24 militaires, il faut vraiment mobiliser des moyens humains et matériels.
Oui, vous vous interrogez assez logiquement, Mahamadou, en vous demandant comment un déplacement d'un tel nombre d'hommes et de moyens a pu passer sous les radars des alliés du Burkina.
Absolument, absolument, absolument. Et c'est cela qui m'offusque le plus. Je comprends bien que, bon, on va dire que c'est l'affaire des Burkinabés d'abord, mais le terrorisme n'est plus l'affaire d'un seul pays. C'est pratiquement transversal. Et peut-être que les pays même de la sous-région doivent prendre quelque part leur destin en main. Le Burkina et le Mali, qui sont les plus touchés, on avait parlé tantôt de droit de poursuite des militaires au-delà des frontières d'un ou de l'autre pays. Il faut peut-être que ça puisse se concrétiser entre le Mali et puis le Burkina, qui ont ce destin macabre-là de faire face impuissamment aux actions des terroristes.
Oui, d'avoir les moyens aussi de mettre en œuvre ces poursuites, ce droit de poursuite. Merci Mahamadou à Ouagadougou. Dernier auditeur pour ce matin, Caleb, bonjour.
Bonjour François, comment allez-vous?
Ça va, merci. Merci à vous. Vous êtes à Kinshasa et comme tous les Congolais, vous attendez la fumée blanche.
Nous attendons la fumée blanche, François. L'équipe gouvernementale se fait attendre. Le président Tshisekedi nous a rassuré que ça pourrait intervenir incessamment. En tout cas, dans les prochaines heures, nous pourrons connaître les membres de notre gouvernement. Mais là, c'est vrai que le FCC et le CACH se sont déjà répartis des tâches, de postes ministériels. Maintenant, le président Tshisekedi, en tant que capitaine du navire, a une nouvelle chance pour imprimer sa marque et imposer sa vision. C'est-à-dire qu'il doit examiner minutieusement chaque nom que lui propose le Premier ministre.
Alors,
Ilunga Ilunkamba.
Caleb, excusez-moi, mais ça fait l'accord de répartition, ça fait déjà plus de 3 semaines qu'on l'a. Le gouvernement, ça fait des mois qu'on l'attend. En termes de minutie, peut-être que les autorités congolaises ont eu le temps d'examiner, on peut dire.
Oui, mais alors maintenant, ce que nous attendons, moi personnellement, j'attends de nouvelles têtes, hein, de nouvelles figures. Il ne faudrait pas que ce soit les mêmes personnes qui ont animé le système Kabila, dont Tshisekedi a décrié la mégestion, la mauvaise gouvernance, la corruption, la violation des droits de l'homme. Il ne faudrait pas que ce soit les mêmes personnes qui sont impliquées dans des affaires aussi sales que celle-là. Il faudrait de nouvelles figures. Il faut qu'on renouvelle, que nous ayons une nouvelle classe politique. C'est à ce moment-là que Tshisekedi aura la chance, en tout cas la chance, d'imprimer sa marque et d'imposer sa vision. Si ce sont les mêmes personnes qui ont animé le système Kabila ces 18 dernières années, en tout cas, il aura du mal à s'en sortir,
oui,
à mon avis.
Ça aura fait beaucoup d'attentes pour pas grand-chose, selon vous. Merci Caleb, qui est à Kinshasa. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler lundi, si le gouvernement est connu aujourd'hui, ou peut-être demain, dimanche, sait-on jamais. Sinon, dans tous les cas, on se retrouvera pour un nouveau débat lundi matin. Et puis évidemment, l'actualité politique congolaise ne sera jamais loin de l'antenne d'appel sur l'actualité. En tout cas, sur la page Facebook de l'émission, vous poursuivez toutes ces discussions qu'on a eues. Vous posez d'autres questions sur la crise anglophone au Cameroun, par exemple, sur le mercato de football, voilà. C'est La Liberté, c'est RFI. Merci à vous de votre fidélité, en tout cas, à la Radio du Monde, et bon week-end.
Appel sur l'actualité vous a été proposé.